les étrangers à Paris pour défendre la poésie de leur pays et qu'on puisse l'accueillir et la découvrir en France. Donc je vais laisser la parole à Androula Michael, qui est la directrice de Chypre Culture, qui va diriger cette rencontre.
Merci. Bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir ici et parler de poésie. Et la politique de centre culturel faisant partie du FICEP, qui est le Forum d'Instituts culturels étrangers à Paris. Donc il y a 54 centres et chacun, évidemment, tente de promouvoir la poésie et la littérature de son pays, mais nous faisons aussi des manifestations communes comme la Nuit de la littérature, où plusieurs centres se trouvent toute une soirée de 5h de l'après-midi jusqu'à 11h du soir pour présenter donc un auteur, un poète de leur pays. Donc je suis là aujourd'hui à un double titre, à la fois comme directrice de Chypre Culture, qui n'a pas tout à fait un centre, qui est plutôt un centre culturel mobile, je dirais, qui est accueilli dans plusieurs centres, et en tant que maître de conférence à l'université de Picardie. Et je m'intéresse aussi tout particulièrement à la poésie aussi bien des poètes que la poésie des peintres. Mais je vais donner donc la parole à nos invités. Je vais commencer peut-être par la personne qui est juste à côté de moi, Sinéad Maquet, directrice du Centre culturel irlandais et directrice exécutive de littérature à Ireland. Pour passer ensuite la parole à Fatia Arab, chargée de la programmation littéraire au Centre culturel algérien. Michel Grabowski, qui est responsable des projets littéraires et historiques à l'Institut polonais de Paris. Et laissé un dernier, le seul poète de la table ronde, Jean Portante, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans une autre table ronde où on a parlé de la poésie de Picasso. Voilà, donc, Sinéad Maquet, vous êtes donc directrice du Centre culturel irlandais. J'aimerais bien savoir, pour commencer la discussion, quelle est votre politique de la promotion de la traduction, de la poésie, surtout d'abord en France, puisqu'on est là. Après, si on a le temps, on pourrait parler de la politique de la traduction plus généralement.
Notre politique est d'inclure la poésie dans notre programmation. Nous avons un centre juste à côté d'ici, 5 rue des Irlandais, et nous recevons des poètes comme des artistes en résidence de temps en temps. Il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a des artistes en résidence pour tous les autres arts aussi. Mais normalement, dans une année, on aurait au moins un poète qui viendrait passer soit un mois, soit un maximum de 3 mois en résidence à Paris. Très souvent, ils ont la possibilité de rencontrer des traducteurs et donc de commencer ou d'évoluer un rapport intellectuel où ils essayent de travailler avec leurs traducteurs afin de faire des bonnes traductions de leur propre œuvre. Nous programmons aussi de la poésie dans notre programmation générale pour le public français et international qui vient chez nous. Je dirais que la chose la plus importante, c'est d'avoir des bonnes traductions. Parce que si on n'offre pas des bonnes traductions au public, à quoi ça sert de faire venir les poètes? Oui, ok, le public peut écouter le son, mais le son sans le sens, c'est pas assez. Le 8 mars, par exemple, on a invité 3 poètes à venir, 3 femmes à venir lire leur poésie au centre, mais naturellement, on a invité aussi une traductrice qui avait déjà traduit pas mal de la poésie des poètes en question. Je dirais aussi que pour un public général qui n'est pas très intéressé par la poésie, mais qui n'a rien contre la poésie, c'est très intéressant de présenter la poésie en combination avec d'autres arts. Donc, une programmation multidisciplinaire. Dans ce cas-là, dans le 8 mars, on a invité une chanteuse. Et naturellement, venant de l'Irlande, je dirais que les lyriques des chansons sont aussi de la poésie. Donc, on a eu une chanteuse et 3 poètes, et c'était une nuit de poésie. Plus récemment, on a travaillé avec Édition Muséo et on a créé des panneaux d'art visuel où il y avait des photos de l'Irlande et l'éditeur avait abîmé les images de l'Irlande avec de la poésie irlandaise écrite et en anglais et en français, et ils ont abîmé les poèmes originaux, les traductions et des images d'Irlande. Donc pour moi, notre politique, c'est plutôt de présenter la poésie, mais dans un format multidisciplinaire. Ça suffit pour le moment, je crois.
Merci beaucoup. Je vois que vous avez une politique vraiment suivie, oui. Très importante. Et ce que vous dites concernant les résidences, pour que le poète puisse travailler avec son traducteur, c'est-à-dire à la fois lui-même vivre dans l'atmosphère de la langue et traduire avec en collaboration avec son traducteur, c'est une initiative vraiment excellente. Je vais donc passer la parole à notre autre invité pour nous parler, donc Fatia Arab, de la politique du centre culturel algérien concernant donc la poésie.
Bonjour et ravie d'être parmi vous ici, ravie d'avoir cette ambiance livresque et cette ambiance poétique. Et donc si, pour revenir au rôle du centre culturel algérien dans la promotion de la poésie, je dirais tout simplement que contrairement au centre irlandais, on n'a pas de résidence, on ne fait pas de résidence chez nous, mais on invite pas mal de poètes algériens, et algériens qui viennent de l'Algérie et algériens qui sont résidents ici en France, sachant qu'on a une forte communauté, j'allais dire, algérienne qui vit en France. Et on a parmi elles des écrivains, des poètes, des artistes peintres et des chanteurs. Donc voilà, c'est inclure la poésie dans la programmation habituelle du centre culturel algérien, en faisant en sorte de donner un petit peu la priorité, parce que jusque-là, elle était le parent pauvre de nos activités littéraires. Et là, on revient un petit peu. C'est une aberration en soi, parce que l'Algérie, comme tous les pays africains ou tous les pays maghrébins, elle a une littérature orale. Donc la poésie fait partie de notre culture et de notre patrimoine. Elle est chantée, comme on dit chez nous en arabe, dans les qasaïd. Il y a plusieurs catégories de poésie. On a la poésie populaire qu'on appelle chez nous aussi Chel Melhoun, qui est chantée. Donc la chanson raï qu'on entend ici et qu'elle est devenue universelle, elle est ici de cette poésie populaire. L'arabe classique, pareil, on a des grands poètes arabes classiques et on a des poètes aussi francophones, Kateb Yassine, Mohamed Dib et autres. Et on a Jean Sénac et j'en passe. Donc, et puis, là, pour nous, le centre culturel, c'est justement jumeler les jeunes poètes qui viennent à la poésie et les anciens, en faisant en sorte de combiner les deux et de présenter la poésie dans toute sa splendeur et dans toute sa diversité. Et sachez qu'en Algérie, on a des langues vernaculaires comme le kabyle, comme le touareg, comme le chaoui, toutes ces langues-là sont chantées, je veux dire, c'est de la poésie en soi, en dehors de l'arabe classique et en dehors du français. Et donc, au centre culturel, on essaye de faire en sorte de présenter toute cette diversité. Et la traduction, comment dirais-je, la traduction, il y a des Algériens eux-mêmes qui traduisent leur propre poésie en arabe, ils la traduisent en français et vice-versa. Donc voilà, après, si elle est traduite aussi en espagnol, elle est traduite dans plusieurs langues. Et maintenant, moi, je ne peux pas, je n'ai pas la prérogative ou l'habilité de parler de la traduction parce que je ne m'y connais pas trop. Mais ce que je vous dis, c'est qu'un centre culturel comme le nôtre, sa vocation, c'est non seulement de donner la priorité à ceux, de présenter ceux qui sont déjà connus, mais surtout les jeunes qui viennent à l'art de la poésie. Et je dis l'art parce que la poésie, c'est un art à part entière. Merci.
Écoutez, merci beaucoup. Ce sont des questions extrêmement intéressantes aussi que vous posez. Donc, le rapport de la poésie comme chant. La poésie, c'est quelque chose aussi qui s'appréhende autrement que par la lecture.
Exactement.
Et
exactement.
Donc, c'est aussi l'occasion de mettre en avant aussi des langues qui sont moins écrites, je dirais, qui font partie de la tradition orale.
Orale, oui.
Et donc, c'est très intéressant de voir une tendance qu'on peut remarquer dans la poésie contemporaine où des poètes, comme vous dites, francophones,
oui,
qui sont bilingues, on pourrait dire, pas francophones, traduisent eux-mêmes.
Oui, il y en a pas mal.
Et donc, ce serait intéressant de voir s'ils écrivent d'abord en français et qu'ils traduisent ensuite en arabe. Dans quel sens se fait, en fait, la traduction,
Oui.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant de ce que vous dites, c'est cette nouvelle volonté, ce nouveau désir de mettre en avant,
oui,
en fait, pas uniquement la poésie classique, mais la poésie populaire.
Exactement.
Donc, c'est uniquement comme ça aussi que cette poésie peut être appropriée par le peuple, en étant justement plus, je dirais, oui, plus proche du peuple. Donc, je passe la parole à Michel Grabowski pour nous parler donc du cas polonais.
Donc, merci pour l'invitation et merci à FICEP. La promotion de la poésie à l'Institut polonais, elle fait partie de la promotion de la littérature en général, mais personnellement, je suis très sensible à accentuer cette présence de la poésie polonaise dans le paysage français. Notre cas de l'Institut polonais, il est tout aussi particulier, en ce sens que nous n'avons pas de résidence chez nous, nous n'avons pas encore de locaux qui sont fermés pour travaux. Donc cela nous oblige à penser à notre stratégie, à notre politique de manière différente. Donc la question est, qu'est-ce qu'on fait dans cette optique-là? Et notre stratégie, c'est une stratégie double. Donc la première chose, c'est ce qu'on a décidé, c'est d'informer surtout sur l'existence de cette poésie et attirer vers cette poésie des éditeurs, des traducteurs, intéresser ces personnes-là par la poésie aussi contemporaine et classique. Deuxièmement, c'est aussi de servir d'intermédiaire entre les éditeurs, des éditeurs, des traducteurs, et le marché local et aussi des institutions en Pologne, parce qu'il existe des programmes, par exemple, de subventions, les programmes des traductions disponibles en Pologne, et on aimerait bien informer aussi des éditeurs sur l'existence de ces programmes et les aider éventuellement à se renseigner sur ces possibilités-là. Troisièmement, une fois un traducteur choisi son poète et l'a traduit et il a trouvé son éditeur, nous voudrons bien aider à la promotion une fois un recueil sorti. En ce moment-là, parce qu'on n'a pas de locaux, nous cherchons des différentes opportunités à Paris et dans toute la France de la promotion de la présence de cette poésie. Donc, par exemple, nous aidons pour inviter des différents poètes à des différentes occasions. Donc, en l'occurrence, nous avons invité cette année un jeune poète polonais, Jakub Kornhauser, pour Printemps de poètes, qui il a lu ses poèmes dans la Maison de la Poésie à Paris, puis dans une librairie parisienne avec sa traductrice Isabelle Macor. Ils ont discuté ensemble. L'année dernière, nous avons lu des poèmes d'une autre poétesse polonaise, Eva Lipska, pendant la Nuit de la Littérature, organisée par FICEP. Et ça va de suite. Donc, nous cherchons différents moyens. Demain, nous avons une lecture de poèmes ici, sur cette scène même, dimanche. Donc, nous essayons de chercher différents moyens de présenter cette poésie, d'accentuer sa présence sur le marché francophone.
Très bien. Donc, plus poésie que littérature, ou il y a une place équivalente à la littérature dans...
Les deux. Pour nous, la position de la poésie en Pologne, le statut du poète est très particulier aussi. Chaque année, l'année dernière, il y avait presque 500 nouveaux recueils qui sont sortis en Pologne sur le marché. Et parmi ces 500, je pense qu'une bonne dizaine de nouveaux poètes gagnent de la célébrité ou de la notoriété, en tout cas de la notoriété qu'ils sont après connus. Et par exemple, ils donnent des interviews et leur opinion compte pour l'opinion publique. Donc, ça prouve d'un statut particulier de ce poète, que c'est un personnage très, très important pour les Polonais. Mais d'ailleurs, déjà, quand on voit les prix Nobel en Pologne, nous avons 4 prix Nobel. Et parmi ces 4 prix Nobel, les 2 sont poètes. Donc, déjà, c'est aussi un signe que la poésie, elle compte beaucoup, beaucoup en Pologne. Donc oui, pour nous, ça fait partie de la littérature, mais pour moi, je pense que c'est quelque chose de personnel en plus que j'essaye de promouvoir en plus à côté de la littérature telle que le roman, le reportage, la non-fiction. Voilà.
C'est extraordinaire d'avoir 500 nouveaux recueils de poèmes par an. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et donc, bien sûr... On fait tout ça puisqu'il y a des poètes et que Jean Portante est avec nous. Avant de passer à des questions un peu plus spécifiques sur la poésie, comment vous, en tant qu'artiste, qui écrivez aussi en français, donc vous ne passez pas par la traduction, vous avez présenté votre travail plusieurs fois en France, donc vous vivez peut-être entre les deux, donc vous êtes très souvent en France. Quel est votre sentiment sur la présence, en fait, des poètes étrangers, des poésies étrangères en France?
Oui, bonjour, bonjour, et merci aussi pour l'invitation. Moi, je suis à l'autre bout de la chaîne, effectivement, donc... Voilà, donc j'écris un livre, il va passer à travers la maison d'édition. La maison d'édition le fait passer peut-être à travers des centres culturels et des ambassades ou je ne sais pas quoi pour le faire aller dans le monde entier. Donc je suis vraiment à l'autre bout et la première chose qu'il faut faire, c'est écrire. On oublie toujours que sans ça, tout le reste, c'est une machine qui ne sert à rien, en fait. Et je ne le dis pas polémiquement, je le dis tout simplement que c'est comme ça, qu'il y a les artistes et après il y a, disons, les outils qui aident les artistes à se faire connaître. Je pense que c'est très important comme ça. Ça, c'est un point. Le deuxième point que je voulais ajouter, c'est tout simplement, je pense que jamais, mais vraiment jamais, et ce que tu dis le confirme, jamais on a écrit autant de poésie qu'aujourd'hui. S'il y a 500 livres par an, en Pologne, imaginez en France, imaginez tout ici, qu'est-ce qu'il y a comme éditeur, comment les compter? C'est un comptable. Combien de manuscrits circulent dans ce, qui ne sont pas encore publiés dans ce marché? Ça veut dire qu'encore jamais, dans l'histoire, on a autant écrit de poésie. Jamais il y a eu autant d'éditeurs de poésie. Jamais il y a eu autant de revues de poésie. Et jamais il y a eu de rencontres de poésie. Au 19e siècle, le marché de la poésie, ça n'existait pas. Baudelaire, il a publié à 250 exemplaires. Hein, il faut pas. Donc on est dans un contexte assez favorable où il y a bon nombre de personnes qui s'adonnent à l'écriture poétique. Ils sont reçus par bon nombre d'éditeurs de revues où ils peuvent donc atterrir. Et ils sont soutenus, et ça c'est, je pense, très important, donc par des institutions nationales dans chaque pays qui ont leur émanation dans les pays à travers leurs ambassades et leurs centres culturels. Hein. Tout ça fait un tissu qui me semble fonctionner assez bien en ce moment parce que je me souviens, moi je fais partie des vieux pilier de ce marché, mais il y a 30 ans, la présence étrangère, ici même, c'était très pâle. Hein. Si on voit chaque année comment c'est ajouté, et aujourd'hui, on voit que la présence étrangère est très, 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 très présente. Hein. Et pour répondre à votre question, très brièvement, c'est vrai que moi, je n'ai pas besoin de passer par le tamis de la traduction pour être en France. Donc, et en France, on me considère, parce que j'habite ici depuis 30 ans, comme un poète du lieu. Il y a les maisons d'édition françaises qui me publient sans passer par ce tamis-là. Ça, c'est le privilège des luxembourgeois, de ceux qui écrivent en français, parce que la moitié écrit en allemand. Et une autre moitié, s'il y en a trois, en luxembourgeois. Il y en a même qui écrivent en anglais ou en portugais ou en italien. Donc c'est très complexe cette situation-là. Donc, mais pour passer du Luxembourg vers la France, Luxembourg est un pays tellement petit et en France, il y a au moins 6-7 de ces poètes qui sont dans les grandes maisons d'édition. Il y a Annie Scholz qui est chez Gallimard. Il y a Lambert Schlechter qui est au moins dans une dizaine de maisons d'édition qui sont sur ce marché. Il y a Pierre Joris qui écrit en anglais et qui est passé par le tamis de la traduction. Il y a moi qui suis dans, je sais pas, une bonne dizaine aussi de maisons d'édition. Donc je pense que là n'est pas vraiment, disons, pour nous le problème. Mais ce que vous avez dit dans l'ensemble, c'est quand il faut passer par la traduction, se pose le problème que l'auteur qui est en Pologne ou qui est en Algérie ou qui est en Irlande, eh ben, il n'a pas le bras assez long parce qu'il doit d'abord trouver la maison d'édition qui se trouve dans le pays qui veut le traduire. Et c'est cette maison d'édition qui va choisir un traducteur. Et puis, il faut choisir le financement de la traduction. Et là, on retombe dans votre sphère, n'est-ce pas? Là, c'est un peu plus complexe. Et peut-être un dernier mot sur la traduction ou on va le faire plus tard?
Voilà.
Moi, je pense toujours à Umberto Eco. À un certain moment, on demande à Umberto Eco quelle était la langue de l'Europe. Question un peu difficile, hein, de l'Union européenne. Quelle est la langue de l'Union européenne? Alors, il ne pouvait pas dire l'anglais, sinon les Français l'auraient étranglé. Il ne pouvait pas dire l'allemand, parce que les Français l'auraient étranglé une deuxième fois. Il ne pourrait pas non plus dire le français. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La traduction. Donc la langue de l'Europe, c'est la traduction. Sans la traduction, les pays qui sont là, il y a 22 langues en Union européenne, ils ne se comprendraient pas. Ils passent par la traduction. Et je pense que c'est la même chose. La langue de la poésie, la langue de la littérature, c'est la traduction. Sinon, on ne lirait que le lopin de terre qui nous entoure et les poètes qu'il a donnés. On ne pourrait pas lire la littérature mondiale. Donc c'est un pilier important pour faire venir la littérature du monde entier vers un pays. Et je pense que c'est là que, disons, les institutions, les centres culturels ont leur travail à faire, hein, pour permettre, parce que le poids pour un éditeur, le coût pour la traduction, c'est quelque chose qui parfois est très difficile à supporter.
Merci beaucoup. C'est vraiment très intéressant ce que vous nous dites et vous nous apportez encore plus d'éléments pour continuer notre table ronde. concernant l'importance de la traduction, même si on sait que une traduction absolument fidèle n'existe pas et toujours une traduction est quelque chose de complexe. Et d'ailleurs, un traducteur de Gertrude Stein disait que il faut traduire Gertrude Stein, mais toujours la retraduire. Donc c'est quelque chose qui est aussi un travail créatif. Donc la traduction, les traducteurs n'exécutent pas, ne transposent pas dans une autre langue. Donc on est obligé de passer par la traduction, même si on perd quelque chose, mais je pense aussi qu'on peut en gagner dans une autre langue. Donc du coup, effectivement, la traduction, c'est quelque chose d'important. Vous avez souligné aussi la facilité, évidemment, que vous avez d'écrire en français, donc du coup d'avoir directement un éditeur, et les difficultés pour les autres poètes qui écrivent dans d'autres langues de se faire traduire, sachant que le public donc de la poésie n'est pas très grand et que les éditeurs qui acceptent parfois de traduire des auteurs de langues qui ne sont pas très connus et très célèbres, sont eux-mêmes aussi des amoureux de la poésie. Ce sont des vrais éditeurs qui s'engagent finalement à présenter les poètes et qui ne sont pas, ils le savent très bien, qui ne sont pas là pour faire quelque chose pour des profits commerciaux. Donc il faut saluer aussi la présence de petits éditeurs qui s'engagent en fait à traduire des poètes du grec, des poètes du polonais, etc. Donc, puisqu'on a évoqué la question donc de la langue, de la francophonie, et il y a tout un débat sur la question donc d'une peut-être pas très important, mais on peut l'évoquer. Entre une poésie française ou une poésie francophone, poésie en langue étrangère et traduite, est-ce que vous pensez qu'on peut distinguer la poésie francophone de la poésie française? Je laisse la parole à ceux qui avaient une question. Oui, bien sûr.
Je crois que la poésie française, ça n'existe pas. La poésie italienne, ça n'existe pas. La poésie allemande, ça n'existe pas. Verlaine, il écrit en quoi? En verlaine. En verlaine. C'est sa langue. Chaque poète doit se construire une langue. C'est ça, son travail, en fait. C'est se construire une langue d'écriture. Et donc, ce n'est pas la langue standard. Parce que quand on dit le français, c'est la langue standard. Cette langue-là n'est pas dans la poésie. Celle qui est dans la poésie, c'est la langue qu'a construit le poète à partir de ce qu'il est. Maintenant, c'est vrai, s'il est dans le domaine de la France, il va construire par rapport à cette chose-là. Si vous prenez, Proust, il a sa langue. Personne n'a la même langue d'écriture. Ça n'aurait pas de sens de l'avoir deux fois. Donc, il écrit dans sa langue. Et dans la traduction, je pense que c'est très important. On ne traduit pas, par exemple, du français vers l'anglais. Parce que ça serait le standard. Ça, on le fait peut-être quand Poutine va parler avec Trump. D'ailleurs, on dit, et c'est intéressant, on dit que là, on interprète. Et c'est pas vrai. Là, on n'a pas le droit d'interpréter, parce que sinon, on va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Voilà. Là, on doit vraiment traduire. Donc, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer la langue d'un écrivain, qui est à lui seul, c'est lui qui l'a forgé, vers une langue du traducteur qui, lui, a la sienne aussi et qu'il s'est forgé. Et donc, là est toute la difficulté de faire passer un poète vers une autre. On peut connaître parfaitement les deux langues standards, l'anglais, être complètement anglophone et entièrement francophone et ne pas savoir traduire un poème. Donc, ce n'est pas de langue standard qu'il s'agit, il s'agit de langue de chaque poète qui a mis des années et des années pour la construire. Et donc, il faut la trouver d'abord et après la décortiquer et puis la faire renaître de nouveau dans une langue créée et pas dans une langue standard.
Merci beaucoup pour cette question.
Je pense que je me joins à cette opinion parce qu'effectivement, c'est dans la poésie où on voit directement le rapport très très personnel entre l'auteur et son émotion et tout ce qu'il a à dire. Donc là, effectivement, trouver quelqu'un qui comprend ça et qui accepte cette manière de penser et qui pourra traduire, ça c'est un vrai vrai défi d'ailleurs. Et il en résulte que même si on a un traducteur absolument formidable qui traduit un poète de manière absolument excellente, ça ne doit pas être forcément le cas s'il prend un autre poète qu'il n'apprécie pas ou qu'il comprend pas ou qu'il, même dans la même langue, même si c'est toujours on dit oui ça c'est le polonais, ça c'est le français, mais la particularité de style pour lequel chaque poète travaille, ça c'est quelque chose qui est très très unique et très très visible dans la poésie.
Merci pour vous.
Moi, j'ai un ami argentin qui parle un anglais pénible, il a vraiment un très bas niveau d'anglais. Il a aussi un niveau assez bas en français. Mais quand il traduit de l'anglais à l'espagnol, il y a un mariage d'esprit. Il est poète lui-même et il comprend les poètes irlandais dans une manière que quelqu'un plus académique ne pourrait jamais faire. Donc, de mon côté, je trouve que le traducteur de la poésie doit connaître à fond la langue, c'est sûr. Il doit avoir une très bonne connaissance de la langue, mais il doit aussi avoir cette capacité imaginative de se marier avec l'esprit du poète dans la langue originale.
Tout à fait, parce que la traduction de la poésie, c'est aussi une récréation. Et je ne résiste pas de vous lire une petite réflexion de Picasso, qui est aussi poète, qui a écrit énormément de poésie, et pour le coup, très intéressant, parce que très souvent, lui-même, il faisait la transposition d'une langue à l'autre. Et il commence en espagnol, et le premier petit texte qu'il écrit en français, c'est vraiment une réflexion sur la traduction. Donc je ne résiste pas, j'ai envie de vous le lire. « Si je pense, dit-il, dans une langue, et j'écris, le chien court derrière le lièvre dans le bois, et veut le traduire dans une autre, je dois dire, la table en bois blanc enfonce ses pattes dans le sable et meurt presque de peur de se savoir si sotte. » Je pense que là, il y a une résonance différente. L'essence y est, mais on a changé radicalement, en fait, la forme que le poème prend dans une autre langue. Je vous ai vu vouloir...
Allez-y. Oui. Non, c'est juste pour... Allez-y. Ça me mène à dire pourquoi on dit traducteur dans ce cas. Parce que le traducteur, s'il a cette sensibilité poétique, bah, lui-même, il est poète. C'est pas la peine de dire traducteur dans ce cas. C'est vrai. Parce que si... Alors, un poète qui écrit en arabe ou en français, je prends le cas d'un Algérien, et s'il traduit sa propre poésie en français ou en arabe, ce ne sera pas la même si un autre traducteur qui maîtrise les deux langues et qui va traduire la langue de l'autre. Mais c'est pour ça que je dis, le mot traducteur, quand il s'agit de poésie, il ne faut pas le bannir, mais il faut lui dire sa subtilité, il faut lui donner son sens réel. Pour moi, c'est un créateur, point barre. Voilà.
Tout à fait. Ce qui signifie que sur la couverture du livre, il faudrait dire qui a écrit ce livre. Si on lit Pessoa en français, qui l'a écrit en français? C'est pas Pessoa. Pessoa l'a écrit en portugais. Pourquoi on met pas... parce que l'écriture, la langue, elle vient d'un autre, elle n'est pas de Pessoa. Pessoa raconte l'histoire, les thèmes, mais la langue n'est pas la sienne. Si on part du point de vue que la poésie, c'est de l'écriture, comme la peinture, c'est de la peinture, c'est de l'écriture, alors ce n'est plus Pessoa l'auteur. D'ailleurs, au cinéma, quand on fait une autre traduction qui est la transposition d'un livre, par exemple, si on prend Shakespeare, vous pouvez trouver des affiches de cinéma où le nom de Shakespeare n'apparaît pas. vous avez les affiches Macbeth, vous aurez Orson Welles, vous aurez les autres interprètes qui sont les comédiens, mais Shakespeare n'apparaît même pas. Donc là, on a vu que l'auteur du film, le traducteur, donc le transposeur, c'est le metteur en scène. Dans la traduction, on ne fait pas ça. Le traducteur, on le met peut-être à la deuxième page, la troisième page, tout petit, hein, traduit par, hein, alors que c'est lui qui a écrit le livre et qui a construit le livre et qui a donné la langue, sa langue au livre.
Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est dangereux.
On n'entend pas un micro.
Maintenant que je veux contredire, ça ne marche pas. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que pour moi, il y a une différence entre ce qu'une personne a créé et ce qu'on fait quand on traduit. Je suis d'accord qu'il y a besoin d'une capacité d'imagination énorme. Je suis d'accord qu'on recrée quelque chose dans l'autre langue, mais ce n'est pas la même chose de créer quelque chose tout nouveau et de traduire quelque chose qu'une autre personne a créé. Il y a une différence et c'est dangereux de dire que c'est exactement la même chose.
Je pense.
Oui. On a tout simplement, moi en tout cas, j'ai dit que le traducteur, il garde toujours son. C'est bon. Il garde son statut de traducteur, il n'est pas question de le changer, mais je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a créé quelque chose. Mm. Par rapport à une poésie, il a vraiment créé quelque chose, il lui a donné une autre langue. Mm. Mais c'est ça qui est important dans la traduction. C'est pour ça que je me pose la question, pourquoi le traducteur, j'allais dire, il est, disons, le parent pauvre, non, mais il n'est pas aussi apprécié que le poète lui-même, en fait. C'est ça. On se pose la question.
Okay. Avec ça je suis d'accord. Mais l'idée que c'est lui le créateur, non.
Avance. Je pense que ce n'est pas ça.
Oui, c'était pas ça.
J'ai pas dit qu'il était le créateur. J'ai dit qu'il est un créateur. C'est-à-dire, lui aussi, il crée quelque chose. Le poète crée quelque chose et l'autre crée autre chose. Il reconstruit, il fait quelque chose de neuf. Parce que poésie en grec, ça veut dire tout simplement fabrication. Poiesis, poiein, c'est fabriquer. C'est pour ça Dante dit dans la Divine Comédie, il parle d'un poète du XIIe siècle où il dit « il miglior fabbro », le meilleur forgeron. Ce que T.S. Eliot va reprendre quand il fait la dédicace dans The Wasteland pour Ezra Pound, il dit per il miglior fabbro, pour le meilleur forgeron de langue. Alors quand on parle de forgeron de langue, le traducteur est aussi un forgeron de langue. Et le poète est un forgeron de langue, donc, mais il ne prend pas la place de l'autre. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est mis un peu entre parenthèses, mais il y a une revanche, il prend une revanche extraordinaire. Le traducteur est payé pour sa traduction. Le poète n'est pas payé pour ses textes.
Pas toujours.
Peut-être pour équilibrer aussi cette situation. Je voudrais raconter une situation à laquelle j'ai assisté. C'est qu'un auteur était là à la librairie et son traducteur traduisait aussi ce qu'il avait à dire au public à propos de son livre. Et justement, le traducteur, avant de se mettre à table avec son auteur, lui a dit « je vais traduire ce que tu as à dire au public ». Et l'auteur a dit « mais non, tu restes à côté de moi et tu réponds aux questions, parce que c'est toi aussi qui as coécrit ce livre avec moi ».
Oui, ça c'est magnifique, oui, absolument. Mais là, vous touchez aussi une question importante, la question aussi des financements, la question donc des difficultés que peut avoir un auteur à être traduit. Les centres culturels font un travail, en ces sens, assez exceptionnel pour aider la traduction de poésie. Est-ce que vous mettez en avant aussi bien la traduction, donc la langue traduite, que la langue originale donc, quand vous faites de présentations de poésie, par exemple. Est-ce que, parce que j'ai remarqué, par exemple, à la nuit de la littérature, que les publics qui étaient là étaient très contents d'entendre aussi la poésie dans sa langue originale, même s'ils ne comprenaient rien. Parce que la poésie, c'est rythme, c'est chant, c'est danse, c'est quelque chose absolument. Donc, du coup, la question donc, de la sonorité est importante. On perd une partie, mais on en gagne une autre, dans une autre sonorité. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas privilégier les éditions bilingues ? Est-ce que vous faites des éditions bilingues de poésie dans votre, ou quand vous présentez les poètes, est-ce que vous les présentez dans les deux langues ?
Oui, on le fait. D'accord. On le fait et je citerai un exemple qui s'est passé dernièrement au mois de janvier. On l'a fait, c'était une initiative du ministère de la Culture, la nuit de la lecture. Oui. Donc le Centre culturel algérien y a participé et on a présenté deux poètes, une poétesse en langue amazigh, berbère, kabyle, et un poète en langue arabe. Et la poétesse qui faisait sa poésie, qui déclamait en langue amazigh, elle traduisait en français. Donc on avait les trois langues en fait. Et le public, c'était un public aussi bien français, algérien, américain. Il ne comprenait rien du tout, mais il était là. Il était récepteur, il était là, il écoutait. Et quand on lui a posé la question, et ben, il a participé à ce débat-là. Il a eu un échange avec les auteurs. Et il disait qu'on n'a rien compris, mais vraiment, ça nous interpellait. La poésie, elle a de ça... Enfin, contrairement à l'opposition de la littérature, la poésie, elle a cette particularité d'interpeller tout le monde. Même si on ne comprend pas dans la langue d'origine, on est là, on l'écoute. Et c'est ça ce qui est magnifique dans la poésie.
Michel ? Nous, on laisse le choix souvent, c'est à l'éditeur finalement de choisir, parce que... On ne peut rien imposer. Mais les éditeurs, en général, ils sont intéressés par la publication bilingue. Il y a quelque chose, surtout dans la poésie, qui attire. Voir dans une autre langue, même si on ne la comprend pas, c'est intéressant. C'est quelque chose qui donne déjà... Parce que déjà, dans les lettres, il y a une certaine mélodie, il y a un certain graphisme. Et on regarde comment les vers se mettent dans la langue originale et comment se mettent en français. Donc tout ça, c'est très intéressant, mais finalement, c'est un choix de l'éditeur. Nous, on n'a jamais imposé, mais dans toutes nos actions, presque, si c'est possible, on privilège, si on lit la poésie à haute voix, que ce soit lu bilingue, si c'est possible.
Chez nous, c'est à peu près la même chose. On aime bien présenter dans les langues, comme ça les gens peuvent entendre la langue originale, soit gaélique, soit anglais, et entendre les traductions en français. Mais dans le cas des éditions, il y a une réalité. Si on publie bilingue, on a moins de place, donc il y a moins de poèmes qu'on présente au public. Et ça, c'est des fois un dommage. Et aussi des fois... Quand on publie, on dit en anglais en parallel text, donc en version bilingue, si quelqu'un change d'idée concernant la traduction, c'est déjà là, on n'a plus la flexibilité. Par exemple, un poème de Baudelaire qui a été traduit par un poète chez nous, l'Albatros, tout le monde le connaît, c'était très très bien traduit, il y avait l'anglais à côté, mais un an ou deux après, un autre poète a fait le même poème et tout d'un coup, on avait des comparaisons un peu méchantes. J'aurais préféré lire les deux poèmes sans trop penser au français. Mais il y a des questions de place surtout. Je trouve que si on publie en version bilingue, on réduit les possibilités de présenter les poèmes, les poètes.
Moi, je... Moi, je le vois du point de vue, de nouveau, à l'autre bout de la chaîne. Il y a aussi une philosophie derrière. Hein. Ce n'est pas la même chose. Hein. Si on a les deux langues, ou s'il y a seulement une, si on a les deux langues, on a le passage d'une langue vers l'autre. Donc, celui qui lit les deux langues pour avoir le passage de l'original vers la traduction. Si on ne le met pas, on cache ce passage. Il est occulte. Donc, il faut aller acheter le deuxième livre pour savoir quel était l'original. Donc, je pense que ça joue aussi, hein, donc, dans le choix. Je pense que c'est une philosophie. Hein. Est-ce que je veux montrer comment se fait une traduction, comment est fabriquée une traduction, ou est-ce que je ne veux pas montrer comment... Et ça joue aussi. Après, je suis tout à fait d'accord, hein, les coûts. On ne peut pas faire un livre de 400 pages quand c'est 200. Alors, on va faire seulement 100 poèmes. Deux fois, donc, et toutes ces choses-là. Je veux dire juste un dernier mot. J'aime bien être accompagné. C'est une performance. Hein. On a dit aux cloches de jouer avec nous. Et ce que disait Valérie est très intéressant parce que pour la traduction, il disait que la poésie, c'est une hésitation entre le son et le sens. Et pour la traduction, ça, c'est essentiel. Est-ce que je traduis plutôt, j'hésite plutôt du côté du son ou plutôt du côté du sens. Et c'est dans ce va-et-vient que se reconstruit le poème. Et donc, il se peut que le mot, ce qu'a fait Picasso, hein, en faisant passer une phrase vers une autre, le résultat est complètement différent, mais peut-être qu'il a gardé les sonorités parce qu'il croit que c'était important le son. Et si le son n'est pas important, je vais passer autre chose. La rime, par exemple. Comment faire passer une rime française en allemand? C'est impossible. Les mêmes mots ne riment pas, ou en polonais, ou en arabe, donc, ou en anglais. Ça ne rime pas. Alors, est-ce que je laisse de côté la rime? Oui, si ce n'est pas important. Si c'est important, il faut faire la rime. Mais alors, j'aurai d'autres mots que celui qui est... Vous voyez comment se reconstruit une langue petit à petit? Et pourquoi je disais tout à l'heure que le poète traducteur doit réécrire un livre.
Et ça varie aussi selon les cultures. J'ai des expériences avec des traducteurs russes, et là, c'est le son qui compte. Surtout, le son et le rythme est essentiel. Tandis que si on traduit, par exemple, Seamus Heaney en néerlandais, le son, je trouve, en écoutant, et je ne parle pas le néerlandais, mais en écoutant, je trouve que le son a moins d'importance et que le sens, c'est ce qui domine.
Je vais essayer de parler un peu plus fort, mais c'est comme vous dites, c'est une performance, une poésie sonore. J'ai rythmé, absolument. J'aimerais bien poser une autre question à laquelle j'aimerais bien qu'on réfléchisse concernant non pas les traductions dans des langues dites dominantes, le français, l'anglais, mais comment est-ce que nous, représentants de centres culturels, on pourrait œuvrer pour que les poésies des langues plus rares, on pourrait dire, pas dominantes, soient aussi traduites dans des langues mineurs, dans les langues autres, pas en français, en anglais, qui prennent la part du lion dans les traductions. Est-ce que nous, on n'aurait pas là un rôle à jouer pour la traduction dans d'autres langues périphériques, c'est-à-dire que la Chypre Culture fait en sorte que les poètes polonais soient traduits en grec ou etc. Donc, et vice versa.
Ça, c'est prétentieux à un centre culturel de faire ce genre de travail parce que c'est trop. Déjà, c'est pas le rôle. C'est pas le rôle d'un centre culturel pour nous. Hein. C'est pas le rôle d'un centre culturel de traduire, en fait. C'est peut-être de promouvoir la déjà commencer par la poésie du pays d'origine, en fait. Comme par exemple en Algérie, on a pas mal de langues à côté de la langue française et arabe. Et on essaye justement de promouvoir la poésie en berbère ou la poésie en touareg ou la poésie en... C'est ça qu'on présente et ça fait partie de nos activités à côté de la poésie arabophone et à côté de la poésie francophone. C'est déjà investir dans la diversité de la culture d'origine.
Oui, bien sûr.
C'est vraiment montrer qu'il y a une poésie qui fait partie de notre culture et il faut la mettre en exergue. Après, s'il y a possibilité de présenter d'autres poètes, d'autres pays, pourquoi pas ? On l'a fait pour les Syriens, on l'a fait pour les Palestiniens, on l'a fait pour d'autres pays tunisiens, pourquoi pas. Vous allez me dire qu'ils sont des pays arabes, mais ils ont leur particularité sur ce point-là. Chaque pays a sa particularité sur, quand il s'agit de l'art de manière générale ou la poésie de manière particulière. Donc on essaye de faire à notre niveau, mais traduire, ou ça c'est un peu prétentieux de le dire, on a du mal un peu avec notre propre culture pour la faire connaître auprès d'un public étranger pour nous, même si on est français et que l'Algérie, elle est à un certain pourcent francophone aussi, pour passer à autre chose. Donc déjà, notre souci, c'est de faire connaître notre diversité et après passer peut-être à un autre stade.
Oui, oui, non, c'était un peu utopique, c'est que je viens de...
C'est-à-dire, moi, je vais vous donner un petit exemple. J'ai une poétesse qu'on a présentée chez nous, Samira Alouesh, qui est ici. Donc, c'est un exemple. Elle est venue, elle a présenté son recueil sans autre... Enfin, elle n'a pas eu d'illusion, donc elle est venue, elle a posé sa question. Est-ce que je peux présenter mon recueil ? Je ne l'ai même pas lu, je me suis dit, elle est jeune, elle a fait son premier recueil, pourquoi pas ? Et donc, on l'a programmée et elle a fait sa soirée qui était une merveille, quoi. Même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, je vous dis que la poésie reste quand même le parent pauvre de la littérature, de la culture de manière générale, en tout cas au centre culturel. Mais à chaque fois qu'il y a une présentation ou une proposition pour faire un récital, j'ai jamais refusé, on n'a jamais refusé. Donc, c'est son premier recueil et c'est son premier recueil qu'elle a présenté au centre culturel algérien. Il y a d'autres, il y en a d'autres.
Je vais juste accentuer une petite remarque que tu as faite, ce qui est très important, que même quand il y a des grandes langues qui parlaient par plusieurs nationalités, et les gens, ce qui est très important, c'est que ces nationalités peuvent avoir leurs particularités. Et ce qui semble marcher assez bien en France, parce que déjà dans les bouquins français, j'ai remarqué qu'il écrit par exemple traduit de l'anglais, entre parenthèses, États-Unis ou Irlande, ou de l'espagnol, entre parenthèses, Équateur ou Argentine. Ce qui est assez intéressant et vraiment à remarquer. Pour la traduction, je pense, des langues rares vers des autres langues qu'on peut considérer en français comme rares, on revient toujours à la même chose, c'est trouver quelqu'un qui ose traduire. Un des écrivains polonais, c'était un écrivain en prose, mais il a trouvé son traducteur, par exemple, en Albanie. Et peu importe que son livre est sorti en 50 exemplaires, le livre est sorti et c'était quelque chose d'important pour lui aussi. Donc tout ça, ça arrive à la question, est-ce qu'on arrive à trouver un traducteur ? Et je pense que c'est aussi un défi pour nous en tant que le centre culturel, d'éduquer les gens et essayer de les intéresser par la traduction, soutenir des jeunes traducteurs qui osent traduire parce que il en manque, surtout en poésie. Actuellement, il y a une dizaine de traducteurs polonais qui traduisent maintenant de la poésie en continu, pas ponctuellement, mais vraiment qui s'y mettent. Et toutes ces personnes-là sont vraiment à remarquer et à remercier que même si il faut le dire, il faut oser le dire, si la traduction de la poésie n'est pas aussi rentable que celle de la prose, ces personnes-là ne renoncent pas, continuent leur travail. C'est ça qui est à remarquer aussi.
On va essayer de conclure. Donc, si vous voulez intervenir, et on va terminer encore avec Jean Portante pour terminer cette table ronde. Bientôt.
Je voulais juste dire que je suis d'accord avec vous que l'important, c'est de créer un cadre, un groupe de traducteurs, surtout des traducteurs jeunes qui seront là à long terme.
On n'entend pas. Ça,
Ça, ça marche. Ça, ça marche aussi.
Je vais utiliser les deux. Vous entendez ? L'important, c'est de créer des traducteurs à long terme, des traducteurs jeunes qui vont traduire, qui vont apprendre des plus anciens et qui vont traduire à long terme. Les traducteurs de la poésie sont vraiment des héros. Il faut les soutenir.
Bon, et le mot de la fin au poète.
C'est vrai que j'ai un peu faim. Voilà. Non, que dire d'abord, je pense que les centres culturels pourraient jouer un rôle dans les deux sens. Parce que là, je vois seulement un sens, c'est-à-dire une direction. Nous avons une poésie chez nous, je veux la faire venir dans le pays où je suis. Hein. Les Polonais, Algériens, l'anglais. Est-ce que ce serait pas aussi le rôle d'être une sorte d'éponge et de voir qu'est-ce qu'il y a dans le pays où on est, dans le monde entier, de dire cette poésie-là, je veux la faire entrer en Pologne pour que, ou en Algérie, ou en Irlande, pour que chez nous, on soit confronté avec ce qui se fait dans le monde entier. Hein. Je pense que ça serait peut-être une piste. Là, on y pense moins, je sais aussi pourquoi. Hein. Ça met en branle toute une autre... un autre arsenal de moyens, donc. Hein. Donc ça, c'est peut-être pour conclure, hein, c'est une des choses. Une dernière chose, petite langue, ça n'existe pas. Hein. Petite langue, ça n'existe pas. Les langues sont comme tout le reste dans la concurrence généralisée du monde, et donc il y a celles qui dominent et celles qui sont dominées, n'est-ce pas ? Je crois que c'est plutôt ça. Et je pense que nous, si on veut être honnête, il faut se mettre du côté des langues dominées, pas des langues qui dominent.
Super. Merci beaucoup à tous et merci.
Merci.
Merci à vous cinq d'être intervenus. Et ben, le débat continuera de toute façon dans les années qui viennent. Merci beaucoup et merci au FICEP de nous